Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut Alex.
Ah, aujourd'hui on reçoit un grand artiste.
Ah oui, un artiste total.
Il est fondateur du courant multiste.
Ouais, oui, je connais. Bah, ils étaient assez nombreux d'ailleurs.
Non, multiste, voilà. parce qu'il explore plusieurs domaines du métier d'artiste, musique, poème, peinture.
Ah ben bah, comme moi en fait. Ouais, c'est pareil.
C'est ça. Alors bon, toute son œuvre est un voyage conceptuel autour de la question de l'existence.
Comment se définir entre le conscient identifié et l'émotionnel inconscient.
Waouh. Ouais,
et ça pose évidemment la grande question du qu'en est-il du subconscient imaginaire.
Ouais, bah oui, j'allais poser la question. Oui,
Guillaume, quand même, c'est l'un de nos plus grands musiciens français.
Sa carrière au stage.
D'accord, mais c'est qui en fait?
Charles-Élie Couture.
Charles et Lee, ils sont deux en fait, ils viennent.
Mais non,
c'est un groupe. Charles et les Coutures.
Non,
parce que moi, par exemple, je vois dans les disruptifs, j'en ai quatre, mais il y a pas de leader.
Super, merci Guillaume. Non, sinon, il a publié un recueil de poésie, La Mécanique du ciel, publié au Castor Astral.
Ah ben justement, parce qu'en ce qui concerne la poésie, moi, j'adore ça. J'ai écrit un livre sur Rimbaud.
Non, mais tu ramènes toi, toi.
Oh bah oui. Bon alors, il expose aussi en ce moment des peintures assez.
Ah bah moi aussi.
Ça commence à me pomper. Tu vas arrêter. Tu vas écouter Charles et les Coutures. Ça, c'est un artiste multiste. On en a rien à foutre que t'ailles faire des peintures toi aussi.
Non, mais je peins pas.
Ah ?
Mais non, c'est parce que j'ai une tante qui habite à 7.
Bonjour la France Inter. Fou, on est excité, je sais ce qui se passe. Bienvenue dans la Ligue du Mi bémol, un collectif qui harcèle l'actualité sous couvert de la blague. Et voici les trois informations qui vont chanter faux, mais avec tellement de sincérité. Il y a 10 ans, une trentaine de jeunes journalistes branchés se sont baptisés la Ligue du LOL. Le LOL consistait à harceler de jeunes confrères et consoeurs sur Internet. Leurs méfaits remontent aujourd'hui à la surface et des journaux font le ménage dans leur rédaction.
Ça va ? T'es droit dans tes bottes ? Oui, t'as pas l'air d'être étouffé par la honte.
Si l'intelligence artificielle est capable de peindre un nouveau tableau de Rembrandt, elle est aussi capable d'achever la 8e symphonie de Schubert, dite la symphonie inachevée. Et demain, l'intelligence artificielle sera capable peut-être de ressusciter Dali.
Quand je crée, ce n'est pas moi qui vais vers la toile, c'est la toile qui vient vers moi.
Oui, c'est cela. Le clip couronné d'une victoire de la musique en France, c'est celui d'Angèle qui déambule en combinaison de ski sur une plage. Aux États-Unis, les clips sélectionnés aux Grammy Awards sont de virulents pamphlets contre le sexisme et le racisme.
Ça ne vous dérange pas qu'il soit noir?
Lui, il est resté bloqué à Michel Thor. Il faut donc lui parler de Scopiton, l'ancêtre du clip. C'est son côté vintage. Bonjour Alex Vizorek.
Il y en a des très bons, mais je vais vous parler de ça une autre fois. Je vais plutôt vous parler de la belle équipe que j'ai concoctée autour de la table à 17h20. Celui qu'on pourrait appeler les ragnoutes de l'équipe, puisqu'il vient nous voir une fois par mois, c'est André Manoukian, bonjour.
Quelle classe, Alex.
Et qui donne mal à la tête, c'est vrai. Il y a plein de points communs.
De quoi on va parler?
Écoutez, je vais essayer à ma manière de faire le portrait de notre invité.
Mais très bien.
Stress là.
Oui, j'imagine. Concentrez-vous. 17h30, certains disent qu'il écoute les Français alors que c'est faux. Il entend les Français et c'est déjà une performance. C'est Guillaume Meurice.
C'est vrai, bonjour à tous. Et moi, je suis allé à la remise des lauriers d'or de l'audiovisuel hier soir. Ouais. Et j'ai notamment croisé Daniel Gilbert.
J'en ai ras-le-bol de regarder les infos parce que je vois tout en jaune.
Attention, on va pas faire une berléante quand même.
Et enfin, 17h40, si Chimène Badi vient du Sud, elle vient du Nord, mais sinon elles n'ont que des points communs. C'est Constance, bonjour.
Bonjour.
De quoi vous en parlez?
Alors moi, je vais faire une chronique contre laquelle vous ne pourrez pas porter plainte parce qu'elle ne va pas vous toucher, Alex.
Très bien. Je suis curieux.
Et voici celui qui va transformer notre open space en atelier d'artiste. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Charles-Élie Couture, bonjour.
Ah mais oui, c'est lui.
Oh là, ça claque.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Ah, cette voix, c'est bien celle de Charles-Élie Couture, bienvenue.
3-4, c'est parti.
3-4, on y va. Charles-Élie Couture, vous avez beaucoup d'actualités parce que, on l'a dit, vous êtes un artiste multiforme. Il y a notamment une exposition de peinture, Passage, au musée Paul Valéry à 7, qui se tiendra à partir du 16 février jusqu'au 28 avril. Il y a un recueil de poèmes intitulé La mécanique au ciel, parution aux éditions Castor Astral, qui sort jeudi. Où vous avez vous livrez les poèmes que vous ne chantez pas.
Oui, des écrits poétiques, parmi lesquels des poèmes en prose, d'autres en vers, enfin,
voilà.
Des choses qui n'ont pas nécessité d'être mises en musique, voilà.
Et ceux qui sont mis en musique, c'est dans votre dernier album en date qui s'appelle Même pas sommeil et qui vient de sortir. Charlélie Couture, c'est votre 23e album.
Ah, quand c'est celui de l'invité, c'est moins grave. Mais
allez-y, répondez.
C'est quoi votre sonnerie, Charlélie?
Le cœur y est. Le cœur y est. Touche pas.
C'est bien. Qui? C'est
3,
qui
4, 3, 4.
Alors qu'est-ce que. Non, qu'est-ce que vous avez comme sonnerie alors? Comme ça, on peut savoir.
Là, on a fait du ding-ding, là.
Ah, bon, c'est du ding-ding. Alors,
c'est du mi-bémol.
3, 4. L'album est meilleur que la sonnerie.
De toute façon, c'est enregistré, on va recommencer à 17h13. C'est donc votre 23e album, Charlélie Couture, avec 1500 concerts, 17 bandes originales de films, dont celle de Tchao Pantin, bien sûr. Vous, vous avez sans cesse des choses à raconter en chanson, parce que quand on fait un 23e album, c'est qu'on a encore beaucoup de choses à raconter, beaucoup d'inspiration. Ouais. Vous êtes un peu une éponge qui absorbe la société, et comme la société change sans arrêt, vous avez encore des choses à raconter?
Oui, enfin, je me pose pas vraiment la question. Quand on écrit parce qu'on a quelque chose à l'intérieur de soi. J'ai l'habitude de dire que la création, c'est comme le sifflet de la cocotte minute. Simplement, au lieu qu'il y ait une seule note, il y en a plusieurs. Voilà, c'est tout. Mais c'est une question de pression.
C'est une impression.
Je vis avec ça.
Moi, j'écris que quand je suis largué, Charlélie, vous avez pas été largué 23 fois, rassurez-moi.
72 albums, hein, on dira nulle part encore.
Disons que je suis naturellement largué.
Est-ce que c'est votre premier album depuis que vous êtes rentré en France? Est-ce que vous avez commencé à l'imaginer en étant toujours aux États-Unis?
Oui, enfin, disons qu'un disque, je mets 2 ans à peu près et demi à le concevoir. Et du coup, il apparaît quand je suis revenu. Mais c'est vrai qu'au départ, j'étais encore à New York quand j'ai commencé à écrire les chansons sur cet album.
Des chansons en français, des chansons en anglais.
Pas seulement, c'est quelque chose que je fais depuis des années, mais dans l'idée que les gens aiment bien comprendre ce dont il s'agit, et puis les sujets que j'aborde méritent d'être au moins entendus. Quand on chante exclusivement en anglais, les gens entendent seulement les onomatopées de ce que tu dis.
Alors, vous sous-estimez quand même un peu. Là.
Non, mais il y a une chanson, par exemple, là, sur le disque qui s'appelle The Hardest. Jamais personne me parle du contenu de cette chanson parce qu'il est en anglais ici. Quand je joue à New York dans les clubs ou tout ça, je chante effectivement plus de chansons en anglais, tout simplement parce que c'est pour être compris, quoi.
Par rapport à cette chanson The Hardest, quel est le contenu de cette chanson?
Très simple. Ça dit le plus dur, c'est pas quand tu te réveilles dans un hôtel brumeux avec la tête en vrac le matin, une fille en travers du lit, le combi qui déconne, pas de branchement téléphone, que tu te fais avoir par les gars dans les boîtes de nuit et les engueulades à l'intérieur du groupe. Le plus dur, c'est pas quand t'es malade et que tu tiens plus debout et que quand tu rentres chez toi, il y a plus personne. Non, le plus dur, c'est quand ça s'arrête.
Ah, c'est bon. Hein,
et pour vous, ça ne s'arrête pas, c'est le titre, même pas sommeil, c'est-à-dire que vous êtes toujours là, vaillant, avec l'envie et la créativité.
Ouais, quand on voudrait que j'aille me coucher, en fait, je me réveille.
c'est aussi très américain dans la sonorité. Est-ce que, alors moi qui suis béotienne en matière de musique, la présence du banjo, par exemple?
Oui,
c'est une sonorité
j'avais
que vous aimez,
enregistré que vous sur le précédent album à Lafayette, Maurice, près de Lafayette. Et du coup, je suis revenu avec l'envie d'intégrer ces sonorités comme le violon et notamment le banjo, la mandoline, enfin tous ces instruments plutôt folk dans une musique au départ et plus blues rock, on va dire.
Il y a quelque chose de terriblement cajun dans votre voix, mais en fait, j'ai un peu réfléchi depuis, c'est au début, vous avez une voix unique, inimitable. Et au début, on se disait, est-ce qu'il n'aurait pas un accent? Mais en fait, cette manière de chanter nasale, c'est la vraie technique du chant. C'est-à-dire, c'est la vraie manière de faire résonner les résonateurs du nez, de la gorge, alors que le français est un petit peu contraignant. On parle juste avec 3 muscles autour de la bouche. C'était une histoire de son, cette affaire-là, chez vous.
Disons que le fait de me mettre dans la voix une espèce de timbre qui un peu sec comme ça, ça permet de faire que quand on chante avec des instruments, avec des grosses graves, des le pied de grosse caisse par exemple, boum boum boum, quand on a à dire des diphtongues à la française qui sont muettes comme on ou on, etc. Si tu le dis d'une voix douce, c'est comme ça avec une pied de grosse caisse, on comprend rien du tout. Alors que si d'un seul coup tu te mets à durcir le timbre et que d'un seul coup ça se met à passer, c'est plus facile à faire comprendre.
Le son par Charles.
C'est comme ça qu'André Manoukian fait d'ailleurs toute cette chronique.
Mais contrairement à ce que tu dis, je ne parle pas du nez. Je ne parle pas du nez.
Je parlais d'André Manoukian, rassurez-vous. Charles Louis Couture, je ne me permettrai pas.
Je parle de la gorge sec, sèche.
Donc votre dernier album s'intitule Même pas sommeil. Il est disponible et André Manoukian va nous en parler tout à l'heure, bien sûr. En attendant, Charles-Élie Couture, Djoubaka, notre programmateur musical, a choisi Duran Jones, Morning in America. Je pense que c'est pour vous.
Let's go.
Oh, yeah.
Play it, please.
It's still in San Diego. You can hear a baby cry. As the trains in New York City roll thunder down the line. Teachers rise in Richmond as they sleep in San Antonio, while the harbor lights on Baltimore got nurses headed home. And the Joes of Maricopa say a man is but he is wrong.
France Inter, Charles-Élie Couture en notre compagnie, il est 17h21 à Bagnoles. C'est en Normandie et vous y jouez le 23 mars, Charles-Élie Couture, au Festival de la Chanson.
J'y vais en voiture, bien sûr.
Bagnoles de l'Orne, bien sûr. Vous jouez à Grande-Synthe aussi le 29 mars. Le 4 avril, vous serez à Moissac, le lendemain à Le Haillan, c'est dans le 33. Et le 6 avril, vous serez à Marciac, où vous jouez à l'Astrada avec votre dernier album.
On se chauffe avant le spectacle qu'on va faire à Paris le 12 avril au Trianon.
Ah, voilà. Très belle salle. Charles-Élie Couture et donc son album Même pas sommeil, il est avec nous. Pour l'entourer, Alex.
Eh bien, André Manoukian, qui parlera de ce disque? Nous avons Constance aussi, qui va faire une chronique qui ne m'intéressera pas. Mais
elle ne touchera pas.
Ne touchera pas, oui, c'est ça la précision. Mais il y avait du suspense, on ne sait pas. Et Guillaume Meurice qui est allé solutionner les problèmes des médias, autant vous dire que ça va bien se passer.
C'est l'heure du journal, allez.
Jupiter, c'est un style. Ah. Jupiter, c'est la mode.
Oh.
Jupiter, c'est...
Le journal de presque 17h17.
Parce que je le vaux bien.
Et on commence par les titres.
Sous le feu des critiques après son dîner avec Denis Baupin, François de Rugy a déclaré qu'il n'était pas au courant que son procès était en cours.
Ouais, ça c'est dingue, ça, même moi je le savais.
Bah ouais, pourtant vous n'êtes pas son ami, vous ne faites pas de politique.
Non, mais moi, à un moment aussi, il faut dire que de Rugy il est tellement débordé par la lutte contre le réchauffement climatique qu'il y a des choses qui lui échappent, vous voyez, c'est normal. Ça, il est concentré.
Alors, selon Mediapart, oui. Alexandre Benalla aurait négocié des contrats avec les Russes pour 2,2 millions d'euros alors qu'il était à l'Élysée.
Voilà, et c'est là qu'on réalise que Benalla aurait dû être ministre chargé du commerce extérieur.
Dommage, c'est vrai. Et les brèves ?
Et là, je peux vous dire qu'aucun gilet jaune n'a pensé à bloquer le rond-point de la brève.
C'est étonnant.
C'est dommage.
Le conseiller spécial d'Emmanuel Macron, Ismaël Emelien, a démissionné de son poste à l'Élysée.
Tout le monde se barre, mais putain, ça, ouais, ça, vis-à-vis de Macron, je trouve que c'est vraiment pas bien.
Parce qu'en fait, Macron avait fait pareil avec Hollande en 2014 quand même.
Et c'est mérité. Vous avez tout à fait raison de le rappeler. Ça.
Alors, officiellement, Ismaël Emelien quitte l'Élysée car il a écrit un livre sur le progressisme.
Quitter ses responsabilités pour écrire un livre, vu le nombre de bouquins qu'elle sort, Marlène Schiappa, c'est con qu'elle ne prenne pas la même direction.
Nicolas Dupont-Aignan était invité sur LCI.
Oui, et le journaliste lui fait remarquer qu'il n'a pas été reçu à l'Élysée, à l'instar de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, pour parler de la crise actuelle. Il a une explication, tout en modestie.
Je pense que je suis son opposant le plus sévère et qu'il n'a pas envie de me recevoir.
Eh oui, il fout les boules, hein. Donc voilà, il n'a pas voulu y aller.
Voilà, autre interview très intéressante.
Très intéressante sur Europe 1, Eric Woerth, ce matin, a déclaré:
la France, elle est épuisée. Elle est épuisée politiquement et elle est épuisée budgétairement. Alors qu'elle n'a pas commencé à faire le moindre effort de réforme.
Mais qui sait qu'il en a fait beaucoup de la politique et qu'il a été ministre du budget entre 2007 et 2010?
Je vois pas.
C'est Eric Woerth lui-même.
Ah,
oui.
France, la socialiste Nathalie Appéré, la maire de Rennes, a été sacrée deuxième meilleure maire du monde.
Ouais, c'est très classe, mais grosse déception du côté de Jean-Claude Godin à Marseille, qui trouvait qu'il avait fait une belle saison pourtant.
Sport à présent, le breakdance pourrait devenir une discipline olympique aux JO de 2024.
Et oui, et pour la tectonique, je suppose qu'on réserve ça pour les JO paralympiques de Paris. Ils seront prêts aussi.
Bravo, je vois que la Ligue du LOL est toujours pas dissoute.
Pardon. Hein,
sport toujours.
Pour l'instant, je suis pas sorti encore.
Gordon Banks, le légendaire gardien de but anglais, est décédé.
Et oui, l'un des plus grands gardiens de but, et on doit appeler cette phrase mythique: j'ai marqué un but, mais Gordon Banks l'a arrêté. Phrase qui, sur l'échelle du seum, est vraiment plus haute que nous, je crois, vraiment.
C'est vrai. Oui. Il y a des brèves.
Il y a des brèves. Aubervilliers. Ce matin, un convoyeur de fonds a laissé son fourgon et s'est fait la malle avec 1 million d'euros. On n'avait plus vu une escroquerie contre une banque depuis les stars qui ont tourné la pub pour LCL. Et on salue Gad Elmaleh.
Et François Berléand. La dernière.
Un rapport parlementaire propose d'abaisser l'âge de la conduite à 17 ans. Bonne nouvelle pour Jean-Luc Laye, qui en a marre d'être seul à conduire quand il descend dans le sud avec sa copine.
Merci Alex Vizorek. 17h25 à Audincourt dans le 25, car Charles Élie Couture, vous jouez le 14 mars là-bas à la salle qui s'appelle le Moloco.
Du bol, chaque fois vous donnez l'heure, c'est direct dans
c'est
une
dingue,
ville
hein, où c'est il va jouer. C'est vraiment, il y a une connexion entre nous avec Charles Élie. On va aborder ce premier sujet avec vous avant de reparler de
Audincourt,
musique.
Audincourt, putain, j'ai pas revisé.
Le Doubs.
Dans le Doubs.
Ah,
faudra réviser. Ah, 25, c'est le Doubs.
Okay.
On va bosser.
D'accord.
Après l'émission.
C'est bon.
Depuis vendredi, la Ligue du LOL a fait son entrée dans l'actualité. La Ligue du LOL.
On est dans le dur, là.
Vous le dis, ça. Donc, la Ligue du LOL, c'est le championnat de France du sexisme dans les rédactions des journaux comme Libération ou Les Inrocks ou encore le Huffington Post, mais aussi chez des communicants et des pubards. Alors, ils se sont ligués pour harceler sur Internet de jeunes consoeurs ou de futurs journalistes. 10 ans après, ces jeunes femmes ont décidé de prendre la parole pour dénoncer ces hommes. Et dans les rédactions concernées, on a un petit peu embêté, écoutez.
Régulièrement, je suis embêtée.
Harcelée.
Harcelée.
C'est du harcèlement, il n'y a pas d'autre mot.
Par Monsieur Duquesne.
Monsieur Duquesne qui se trouve à côté de moi. Il n'y a jamais rien de fait, hein, certainement. Hein, elle a certainement inventé.
Et c'est pas que moral. Hein.
Ce n'est pas que moral.
Sexuel.
C'est aussi bon. Alors, elle va quand même pas.
Je l'invente pas.
Elle va quand même pas inventer des mots comme harcèlement, comme sexe.
Les déchiens, bien sûr. Voilà. Alors ça
concerne une trentaine de jeunes influenceurs, on dit, sur Twitter et Facebook, il y a 10 ans, et qui aujourd'hui occupent des postes assez enviés dans une presse plutôt progressiste, plutôt de gauche, notamment Libération, ou Les Inrocks, dont le rédacteur en chef est directement visé. Alors, Charlie Les Coutures, c'est des journaux qu'on connaît bien, qui sont quand même censés œuvrer contre le racisme et le sexisme, qui écrivent des articles contre tout ça, et voilà, qui en leur sein sont...
Marcel ment, Marcel ne dit pas la vérité.
Ok, on commence avec un jeu de mots, d'accord, ok, okay. Parfait.
Vous avez entendu
ça, ça y est, j'ai compris.
Il sait tout faire. Il sait tout faire.
Il est artiste multi.
Il fait une excellente polenta aussi.
C'est toujours le coup d'écrire sous le voile de l'anonymat, quoi. Les gens qui commentent
sur Twitter. Ouais. Comment? Ils n'étaient pas anonymes. Ils tweetaient avec leur vrai nom. C'est
pas
ça le pire.
Tous, si.
Non, ils étaient quasi tous sous leur vrai nom.
Non, mais le problème de la communication internautique, c'est justement que, d'une façon générale, tout le monde, avant même d'avoir réfléchi sa réflexion, réagit d'une manière immédiate à tout, et sans même prendre conscience que on s'adresse pas que à des entités abstraites, mais à des gens.
C'est-à-dire ici, ça concerne des journalistes web. C'est à un moment, à force d'être sur Internet, et c'est leur travail, est-ce que vous pensez qu'on perd,
c'est
peut
ça,
perdre
on
pied
perd,
avec
on
le,
perd
le réel
complètement la conscience de ce que c'est.
Et après, c'est peut-être des connards aussi, tout simplement.
Mais c'est une hypothèse. Il y en a partout, de toute façon.
Ce sont des journaux qui sont prompts on dit que c'est la bien-pensance de gauche, qui sont prompts à donner des leçons, etc. Enfin, à France Inter, on n'est pas exempt parfois.
Il serait à valeur actuelle, on dirait.
Est-ce qu'il y a parfois un manque d'autocritique? Par exemple, les Inrocks, je suppose qu'il y a eu pas mal de papiers sur ce que vous avez déjà fait dans votre œuvre multiple dans les Inrocks. Est-ce qu'il y a, ça montre qu'il peut y avoir un manque d'autocritique dans un milieu, dans un métier qui critique beaucoup?
Non, mais quand on se fait cingler soi-même, on vous dit que c'est la rançon de la gloire, qu'à partir du moment où on a une activité publique, elle est soumise à la critique. Et il faut l'encaisser quelquefois, même si ces critiques sont totalement injustes, et puis fondées quelquefois sur des jugements de goût personnel. Là, en l'occurrence, il s'agit de blogueurs et de personnes qui émettaient un certain nombre d'avis et qui se faisaient, d'après ce que j'ai cru comprendre, contrer par des adversaires, entre guillemets, qui ne se gênaient pas pour utiliser tous les arguments.
C'était au-delà de ça, c'était vraiment du harcèlement, c'est-à-dire qu'ils ciblaient des personnes et ils faisaient ce qu'on appelle du cyberharcèlement.
Juste pour se marrer,
pour
délit d'opinion.
Non, c'était vraiment en plus, il y a vraiment des blagues très sexistes, homophobes, etc.
Complètement con.
Ah voilà, c'est ça, tout simplement.
Ça s'appelle le bullying en anglais, tu sais, c'est bully, c'est le souffre-douleur en fait.
Ouais, c'est ça.
Le fait justement que ça passe par Internet et donc il n'y a pas le contact humain, est-ce que vous, parfois, vous êtes tombé après est-ce que vous êtes tombé sur des journalistes qui avaient critiqué votre travail et puis quand vous les avez en face de vous, ils n'ont pas la même facilité à vous le raconter?
Par exemple, André Manoukian ne pouvait pas vous blairer.
C'est un classique.
Ouais,
mais en même temps, on peut changer d'avis.
Avec une bonne torgnole.
Rien de tel que le contact humain.
Il n'y a rien de pire dans mon métier, c'est qu'on vous oublie. Qu'on en dise du bien, qu'on en dise du mal, mais qu'on en parle. Le jour où on décide que t'es emmerdant et que ça vaut pas le coup d'en parler, là tu commences à mourir. Pendant un bout de temps, j'entendais les gens qui disaient Charlie Les Coutures, on ne le présente plus. Et à force de ne plus le présenter, on ne le présente plus.
Eh bien, parlons-en de Charlie Les Coutures et de son album Même pas sommeil.
Et oui, et moi aussi, je voudrais commencer par faire mes excuses, Charlie Lee, et mes excuses à qui? Eh bien, à vous. En fait, les fêtes remontent à un peu plus d'un an. Lors d'une chronique où, comme d'habitude, je prenais en otage un chanteur et son album pour exposer mes théories sur la musique, l'érotisme et le cosmos, j'évoquais l'indéniable supériorité de la pop anglaise sur la pop française du fait que les Anglais, étant le seul pays d'Europe à avoir résisté aux nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, furent copieusement bombardés. Et là, vous me demandez le rapport entre Von Braun et les Beatles. Eh bien, il y en a un. C'est que pendant cette guerre, beaucoup d'enfants ne purent aller à l'école. Et voilà nos fils d'Albion avec plein de gosses en retard. retard scolaire. Les travaillistes, après la guerre, eurent l'idée de créer des art schools, des écoles d'art, où l'on enseignait la photo, la peinture, la musique, le cinéma. École présente dans chaque ville de plus de 5000 habitants, pour les décrocheurs donc. Et qui sortit de ces écoles ? Les Stones, les Who, David Bowie, les Beatles, toute la fine fleur de la pop anglaise. Voilà pourquoi ils furent inventifs, inventant le psychédélisme flamboyant des années 70, travaillant leur performance comme une discipline artistique à part entière.
Merci les nazis, on pourrait dire,
Guillaume Meurice. Alors que chez nous, la musique c'était au conservatoire et la peinture au Beaux-Arts. Deux académismes un peu sélectifs, réservé aux gosses studieux ayant les capacités de bosser, de passer des heures à faire des gammes ou des croquis. Et là, je citais nos deux seuls chanteurs français, pensais-je, ayant des notions d'art majeur, de peinture, à savoir Serge Gainsbourg et Julien Doré, ce qui expliquait leur esthétique de dandy et leur consistance musicale soutenue par un autre art. Et là, je reçois un message de Charles Elie. Il n'y a pas que Gainsbourg et Julien Doré qui ont fait les Beaux-Arts. Moi aussi, signé Charles Elie. Fuck, me disais-je. Fuck. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. En plus de ça, Charles Elie revendique plus que tout autre cette identité polymorphe. Il invente même le terme d'artiste multiste, comme Corto Maltese redessina sa ligne de vie avec un couteau. Charles Elie Couture redessina les contours de son horizon. Ce sera l'art total, interconnecter l'écriture, l'image et la musique. Sa thèse de fin d'études s'intitule « La polymorphie de l'esprit ». Tellement beau et inspirant que ça pourrait être une solution politique. On est plusieurs à l'intérieur de chacun d'entre nous. Moi, perso, c'est tout un big band qui m'habite. C'est fractal, fragile, intuitif, accordé au chaos. Mais quelle vision poétique de l'art du monde, de l'état du monde. Charles Elie a senti cette urgence dès l'âge de 12 ans en visitant une expo chez les dadaïstes. C'est ça que je veux faire quand je serai grand, dit-il. Moi, à 12 ans, je disais, quand je serai grand, je serai pianiste de jazz, comme ça, je jouerai dans un bordel. Bref, je n'avais pas idée, pas plus que Charles Elie, j'imagine que j'étais en accord avec la beauté du bordel des penseurs polymorphes. Mais c'est pas facile tous les jours d'être polymorphe. En 2003, arrivé en finale d'un concours d'artiste plasticien pour l'aménagement de la DRAC d'Amiens, dès que son nom fut révélé, il fut éliminé sans même qu'on examine son projet alors qu'il était en finale. Il s'exile à New York pour exprimer son art sans être pollué par sa notoriété, sauf qu'en 2016, un autre multi arrivant au pouvoir aux États-Unis, mais cette fois-ci un multi récidiviste, Charles Elie préfère rentrer chez nous. Dans Même pas sommeil, son dernier album, il explore son passé, son futur, son présent. Il se révèle en demi-teinte. C'est un artiste, il a sa pudeur. J'ai hésité parmi les 13 pépites entre Ode à l'Est, parce que la légende veut que Beethoven ait eu un tapis avec une boussole qui indiquait l'Est, et parce qu'en ces temps obscurs, c'est toujours de l'Orient qui vient la lumière. Mais finalement, j'ai choisi le Lamantin parce qu'on a l'impression d'être dans un bordel de la Nouvelle-Orléans avec un piano bien déglingo, façon Thelonious Monk.
Les autres voulaient faire la fête. Toi, ce pot de départ, t'as pris la tête. De verre en verre, noyer son cafard. C'était une mauvaise idée, l'open bar. T'en avais marre de te faire brasser. Toi qui faisais partie des seniors. Avant qu'on te jette par-dessus bord, t'as choisi de t'en aller. Les vagues se confondent avec le sable, petite brise légère. Pourtant quelque chose d'improbable électrise l'atmosphère. Discours bidon, fausse promesse. Un baratin d'école de commerce. Tu voyais venir la direction et sa nouvelle méthode de navigation. Au loin là-bas, sous l'horizon, couché de soleil pompéien, le regard dans le vague sur le pont, tu tirais sur un joint. T'as ton ont poussé dans le grand bleu avec les dauphins. En apnée, oui, t'as joui profond, qui sait, t'as perdu pied, c'est certain. Bien sûr que tout a une fin, t'as peut-être été un peu trop loin. Un lamantin, un mammifère marin, t'es échoué dans l'écume ce matin. Les autres voulaient faire la fête, toi ce pot de départ t'as pris la tête, mais plutôt que te faire trimballer, t'as choisi de t'en aller.
Oh yeah, ça a été enregistré en France, mais ça sent la boue du Bayou, c'est ça qui est génial. Charlélie, comment vous faites ?
Je m'amuse aussi, c'est-à-dire j'accepte l'idée que je ne sais pas quand ça commence, comment ça va finir.
Et il y a ce piano aussi ça, un peu monquien avec les dissonances, vous les aimez bien celle-là, et c'est vous qui tenez le piano.
Ah oui, ça j'aime bien.
Un piano monquien.
Ouais, Thelonious Monk, c'est un style.
On a écouté Le Lamentin, c'est un extrait du dernier album de Charlélie Couture qui s'intitule Même pas sommeil. Sachez aussi qu'il y a un recueil de poèmes en prose et en vers, La mécanique du ciel, aux éditions du Castor Astral, qui sort jeudi. Charlélie Couture, il y a à côté de vous, dans ce studio, pour nos auditeurs aussi, certain Guillaume Meurice.
C'est moi. Je vais vous parler médias aujourd'hui, puisqu'hier soir avait lieu les lauriers de la radio et de la télévision qui récompensaient, je cite, les programmes de qualité. Alors déjà, on n'y était pas.
On a rien.
Donc il n'y a pas de hasard, j'ai envie de dire. Jusque-là, on est bon.
C'est des professionnels.
Ouais, c'est des pros. Ils auraient récompensé la quantité et non la qualité. Vous l'aviez, Alex, à mon avis. Dans le milieu, on vous appelle le sautopaf, je vous rappelle. C'est vrai que dès qu'il y a un micro ou une caméra, il y a Alex. Dédé, vous moquez pas. Je vous ai vu vous maquiller pour passer devant la vidéosurveillance de Radio France, donc ne n'y est pas. Alors, on n'y était pas, nous, par Jupiter, mais France Inter a gagné un prix.
Mais non.
Et oui, le laurier de l'information à Secret d'Info. Bravo, oh, bravo à eux. Un prix qui a été remis véridique par Aurore Berger. Ah, c'est sympa, qui va de plateau en plateau minimiser l'affaire Benalla. Donc on est sur une belle qualité de foutage de gueule essentiellement. Et dans le même style, il y a également Dominique Besnéard, celui qui avait envie de gifler Caroline de Haas, qui a remis un prix à Muriel Robin pour son interprétation de Jacqueline Sauvage. Voilà, donc là on n'est pas loin de Francis Holm pour le Grand Prix de la Fraternité. On était bien, mais j'ai aussi rencontré des personnes qui pèsent dans le game. Tout d'abord Nicolas Traube, il est producteur.
Je viens chaque année avec l'espoir d'avoir peut-être un prix.
Bon, et alors là, c'est l'audiovisuel de qualité ce soir qu'on fête. C'est quoi l'audiovisuel de qualité ?
Je me souviens de Hervé Bourges. Oui. Hervé Bourges disait, il faut que ce soit populaire et de qualité.
Et ça, vous y arrivez, vous ?
Oh, si vous saviez.
Qu'est-ce que vous avez produit là, par exemple ?
Navarro.
Pas mal. Navarro, populaire et qualité. C'est un petit peu nos experts Las Vegas. Voilà, c'est les experts Tizi Ouzou, on va dire. Version pousse-boulette avec l'accent pied noir. Alors, c'est vrai que les scènes d'action ressemblaient plus à une baston à la maison de retraite des Mimosa qu'à Boubacaris.
Oh, il courait bien.
Il courait pas mal. Sur la fin, il était un peu fatigué. Mais bon, ça courait, faut reconnaître. Un gros carton d'audience, comme Cyril Hanouna, la star du moment. Alors, est-ce que Cyril Hanouna fait de la qualité ?
Certainement.
Ah oui ?
Il est populaire. Donc c'est de la qualité.
Si c'est populaire, c'est de la qualité ?
C'est le seul critère.
On est sûr de ça ?
Non, moi je suis sûr de rien.
Parce que les anges de la télé-réalité, peut-être ça fait de l'audience aussi.
Là, peut-être que le mot... Les mésanges, vous voulez dire.
Les mésanges de la télé-réalité.
Les mésanges de la télé-réalité qui font cuit.
Oui, j'ai oublié de vous dire, il y avait un cocktail, c'était open bar. Voilà, ça, j'aurais dû vous préciser. C'est vrai que ça aide à libérer la qualité à l'alcool, c'est connu pour ça. Et puis ça aide à oublier la réalité, par exemple que les intermittents de chez Hanouna ont perdu 30% de leur salaire ces derniers mois, tandis que leur patron se fait des nouilles en or à mettre dans son slip, donc chapeau l'artiste. Alors il n'était pas là, Hanouna, malheureusement, pour l'audiovisuel de qualité, mais il y avait Gérard Van Der Gucht, qu'on connaît moins. Il est réalisateur et producteur. Alors qu'est-ce qu'il pense du système Hanouna ? Interview toujours près du bar, je vous rappelle.
Au moins, ça vaut bien que les... Bon, c'est bien, c'est un peu écuménique, les portes sont ouvertes.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque de mélange des genres, comme on dit ?
Oui, bien sûr. Non, mais bon, moi je trouve ça bien. Oui, je trouve ça vraiment bien, oui. Ouais. Bon, vous savez, j'avais des politiques aussi qui deviennent intervieweurs.
Hein. Ah, ça c'est vrai. C'est vrai qu'on va pas tarder à avoir une interview de Cyril Hanouna par Roselyne Bachelot. Je pense qu'en tant qu'audiovisuel de qualité, on va être sur un gros niveau. Il va y avoir des suicides collectifs de cartes de presse, hein, ça je l'annonce. Alors évidemment, on peut pas parler audiovisuel de qualité sans parler Patrick Sébastien. Et à un moment donné, il faut être cohérent. Patrick, donc le seul mec capable de faire une interview de Mimi Mathy en présentant un numéro de cracheur de feu pétoman polonais. Alors Patrick, audiovisuel de qualité ce soir ?
Il paraît, ouais. Je me demande ce que je fais là.
Parce qu'une petite pipe avant d'aller se coucher, c'est de l'audiovisuel de qualité.
Je ne sais pas. Il me semble que parmi les gens qui sont là, il y en a pas mal auprès desquels je m'excuse parce qu'ils doivent la préférer au réveil.
Et voilà. Et ben, c'est ça qui est bien avec Patoche. C'est ça qui est bien avec Patoche, c'est que tu l'attends à un endroit et il y est. Il y est. Il n'y a pas d'entourloupe, c'est immuable. C'est important d'avoir des repères à la télé. À 20h, c'est le journal. Et avec Patrick Sébastien, la petite blague de tub qui fait toujours plaisir. Alors la question du jour, c'est évidemment, donc toujours sur le boss de la télé, Cyril Hanouna.
Ça dépend ce qu'on entend par la qualité.
Ah ouais,
c'est mon ami, c'est un très bon animateur. Et puis pour moi, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de...
Maintenant, il est intervieweur politique. Hein.
Il y a les gens bien et puis il y a les, puis il y a les autres.
Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il invite des politiques maintenant ?
Moi, je ne ferai pas, mais enfin...
Vous l'avez déjà fait par le passé ?
Non, oh là, ça serait trop long.
Ouais, ça serait un peu long de rappeler quand même la liste des politiques que Patoche, il a invité en les faisant chanter ou en leur foutant maquillé, des perruques, voilà, déguisés en clown et tout. Il a même essayé la politique, hein, Patrick Sébastien, je vous rappelle qu'il avait lancé son mouvement « Droit au respect et à la dignité, le DAR ». Ah, voilà, pour se faire pomper ses idées. Voilà, Patrick, toujours présent, je vous dis, au rendez-vous de la blague de tub. Alors, ceci dit, on va pas lui jeter la pierre parce que c'est pas lui qui a inventé ce mélange des genres variété politique. Est-ce que ça viendrait pas d'une certaine Danielle Gilbert? Est-ce que ce serait pas fait piquer l'idée?
Personne m'a piqué l'idée de rien du tout. Toutes les idées sont dans l'air et puis au bout d'un moment, les choses se refont, c'est normal.
Et est-ce que c'était une bonne idée d'inviter les politiques dans des émissions de variété?
Ah mais moi j'ai... Non, moi j'ai pas invité, j'ai juste invité, demandé à Giscard.
Ah ben ouais, mais il est venu quand même.
Ben il est venu, oui.
Oui, elle a pas vraiment invité de politique, juste le président de la République qui est venu jouer de l'accordéon dans son émission, donc ça va. C'était le début de la communication politique et c'est toujours la même musique aujourd'hui. En attendant, voilà, pour voir des ministres qui pissent dans des violons, il y a toujours Cyril Hanouna.
Merci Guillaume Meurice d'avoir sacrifié votre soirée pour ce raout. Il est 17h44 sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Charles-Élie Couture et abordons ce sujet sur l'intelligence artificielle avant d'écouter Constance qui est au naturel. L'intelligence artificielle s'empare du domaine artistique. L'intelligence artificielle voudrait même être un artiste, puisqu'elle prétend pouvoir créer un nouveau tableau de Rembrandt après avoir digéré l'ADN artistique de toutes les œuvres de Rembrandt. L'IA a déjà créé une nouvelle chanson des Beatles et elle entend achever la 8e symphonie de Schubert, symphonie inachevée. Et quand les algorithmes s'emparent de la création, c'est de la beauté parfaite.
J'aime faire des trucs sur mon computer. Ordinateur, ordinateur. J'aime bien taper sur ton clavier. Ordinateur, ordinateur.
Ceci était un message à caractère informatif de Nicolas et Bruno, bien sûr, sur Canal. Charles-Élie Couture, vous qui réfléchissez au concept d'artiste total, qui est une forme d'idéal à atteindre, que...
Non, disons que... Le multisme, enfin, c'est le fait de séparer l'inspiration de la manière.
Du support aussi, c'est ça?
Pas tant du support que de la manière. Il y a des gens qui s'intéressent au mécanisme de la montre, et puis il y a des gens qui s'intéressent au temps. Ouais. C'est pas la même chose. Les gens qui peuvent, on peut très bien admirer une œuvre extrêmement complexe qui est un message qui soit, lui, plutôt simple. Et à l'inverse, il y a des œuvres extrêmement simples qui ont un message qui est très fort. Je pense par exemple à Eric Satie, par exemple, qui a fait une œuvre relativement simple à jouer, mais qui transcende le monde, les époques. Je pense au carré blanc sur fond blanc de Malevitch, ou je pense au ready-made de Marcel Duchamp. C'est des œuvres simples, mais qui ont un message lui-même qui est très puissant.
D'accord, ça donc, c'est artiste total. Alors il y a aussi artiste multiste.
Voilà,
ça, c'est différent.
C'est le fait de dire que dans une œuvre, il y a l'inspiration, ce qu'elle évoque, et puis la manière de le faire. Il y a des gens qui s'intéressent plus à la manière qu'au fond.
Alors voilà, l'artiste multiste,
c'est le fait de dire que quand on a une inspiration, on trouve coûte que coûte le moyen de l'exprimer.
Mais ce serait l'intelligence artificielle, parce qu'elle est capable de créer peut-être des romans, de faire de la musique.
Oui, sauf que l'intelligence artificielle, elle s'appuie toujours sur une manière. Tu parles du tableau de Rembrandt, par exemple, ou du pseudo Rembrandt. C'est un tableau qui est assez fade en tant que tel. Il accumule tous les savoir-faire d'un Rembrandt de différentes périodes, et au milieu de tout ça, il va faire une sorte d'amalgame qui est effectivement grosso modo la synthèse de tout, mais qui est pas une œuvre particulièrement intéressante en tant que telle.
Et qui fait fi de l'émotion.
Absolument, parce qu'il n'y en a pas.
Ça m'intéressait de savoir, quand vous avez une envie, par exemple, il y a une des chansons où vous parlez de votre descendance, de l'angoisse de l'environnement.
Oui.
Vous avez ça en vous, vous voulez l'exprimer. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez plutôt une chanson, qu'un poème, qu'un tableau?
Tu viens de le dire, c'est l'envie, en fait.
Mais comment elle vient d'art... Vous le sentez, vous dites cette thématique-là, c'est de la
l'inspiration,
musique.
C'est le frémissement d'une feuille, c'est rien du tout. C'est pas un truc, quelqu'un qui vient te hurler dans la tête quelque chose. c'est le fait de t'inciter à faire. Il y a une seule chose qu'on peut pas retirer à l'artiste, c'est l'envie d'agir. Après, la valorisation de ce qu'on fait, ça dépend pas de nous. Que le disque marche et qu'il soit entendu par des milliers de gens, ou qu'il reste dans le bac des secrets, ça change rien de l'envie que moi j'ai mis dedans. C'est pareil pour la valorisation d'un tableau. Qu'il soit estimé à telle ou à telle valeur, ça n'a aucun rapport.
C'est la valeur qui me pose des questions.
Ce que je veux te dire, c'est que ça n'a aucun rapport avec le fait de vouloir le faire. La seule chose qu'on peut pas m'enlever, c'est le plaisir que j'ai quand j'agis. Le fait d'être un artiste, c'est le fait d'agir avant de réfléchir. C'est une fois que j'ai fini ce que j'ai fait que je sais qui je suis.
Mais donc pour moi, le côté inspiration de la thématique et le moyen vous vient ensemble. Vous vous dites, il faut une chanson sur l'environnement.
Bah, c'est-à-dire que s'il veut peindre et qu'il a une guitare, c'est déjà plus dur.
C'est en le faisant, que la chose va arriver. C'est comme un équilibriste qui est juste mu par l'envie de traverser une vallée sur un fil, mais au moment où il se lance, il ne sait pas s'il va y avoir des bourrasques de vent, ou si ou ça. Ben c'est un peu ça. Il y a 2 ans et demi, quand j'ai commencé à travailler sur ce disque-là, je ne savais pas du tout que ça allait donner ce que ça donne. Tu vois.
Ce sujet sur l'intelligence artificielle est paru dans le Figaro daté d'hier. Il explique que c'est un support, une aide pour l'artiste et en rien l'idée de remplacer les artistes. Mais par exemple, la symphonie inachevée, elle a sans doute été inachevée pas par la mort de Schubert, mais peut-être par un manque d'inspiration à un moment, puisqu'il y en a une 9e et qu'on pourrait aider à terminer la 8e avec l'intelligence artificielle.
Ce qui se passe en musique à mon petit niveau, c'est qu'on fait ce qu'on appelle du machine learning, c'est-à-dire qu'on pourrait apprendre à une machine de faire à la manière d'eux. Sauf que ça n'a rien d'une création. C'est quoi un créateur ? C'est un mec qui a fait, si vous voulez, du machine learning, qui a appris, mais tout d'un coup qui va faire un geste différent. Et ça, c'est la création. Mozart, il a appris avec tout ce qui venait avant lui, mais à un moment donné, il va faire un geste. Beethoven, il va faire un autre geste. Chacun, ils font tous un geste.
Richard Klederman, un geste, un autre geste.
Laisse tomber. Et tant qu'un robot... Tant qu'un robot n'éprouvera pas de chagrin d'amour, il ne pourra pas faire une musique digne de ce nom.
Voilà. Il faut toujours juste différencier l'outil de celui qu'il manie. Voilà, j'avais un de mes profs au Beaux-Arts qui disait « N'oublie jamais que le crayon que tu as dans la main, c'est le même que celui de Léonard de Vinci. » Sous-entendu, c'est l'usage que tu en fais.
Charles-Élie Couture avec nous, l'artiste multiste. Donc, et à côté de vous, dans son domaine, c'est Constance qui excelle.
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de Darwin. Pour une grande partie des gens, Darwin, c'est le monsieur de la théorie de l'évolution. Pour une autre partie des gens, c'est personne. Parce qu'ils préfèrent se gratter les couilles en regardant la télé, en se disant que se cultiver, c'est un truc de maraîcher. Bref, ça c'est un autre débat que celui de la télévision qui aurait pu être un merveilleux vecteur destiné à nous élever et à vivre mieux les uns avec les autres, mais qui préfère faire caca dans nos cerveaux. Non, aujourd'hui je vous parle de Darwin. Mais pour moi, Darwin, c'était un super petit poney que j'aimais beaucoup monter quand j'étais enfant. Et j'ai des merveilleux souvenirs de mon petit cul posé sur son petit dos de poney rigolo. Ensemble, nous étions libres. Espièglement libres. Et si je vous décris ce joli souvenir d'enfance, ça n'est pas pour faire fantasmer les pédophiles. Non, c'est plutôt pour vous parler de mon immense amour pour les animaux. Et cette phrase n'est pas non plus énoncée pour faire fantasmer les zoophiles. J'aimerais dédier cette chronique à Daya, une petite chienne merveilleuse de la famille qui est morte ce week-end. Et plus largement, je dédie cette chronique à tous les animaux qui font et qui feront toujours partie de nos vies. Merci pour tout. Merci pour l'amour dans vos yeux, peu importe la gueule ou la laine qu'on a. Merci pour les câlins qui regonflent quand on est tout petit face au monde. Merci de nous faire rire et de briser l'overdose de conneries ambiantes qui nous écrasent. Merci pour les proutes à la croquette dans la voiture qui nous oblige à rouler la fenêtre ouverte l'hiver. Merci de nous rappeler que le matérialisme, c'est de la merde, en prenant soin de mâchouiller nos chaussures et le canapé de la maison. Merci de mettre tout le monde à égalité en faisant connaissance en vous reniflant le trou du cul. Merci de nous rappeler que la vie, c'est tout de suite et maintenant, et pas plus tard quand on aura réussi. Réussi à quoi ? Cherche pas d'ailleurs, c'est un truc d'humain. Merci. Merci les animaux pour votre humanité. J'espère que les humains en prendront un jour de la graine. Et pardon. Pardon pour les manteaux ridicules qu'on vous oblige à porter avec juste le petit trou des fesses qui vous fait ressembler à des fétichistes sadomaso. Pardon pour les prénoms débiles qu'on vous donne. Moi non plus, j'aimerais pas m'appeler Kiki ou Pantoufle. Pardon pour les laboratoires, l'élevage en batterie, la vivisection. Pardon pour les abandons, la maltraitance, les refuges pleins à craquer. Pardon pour les abattoirs, le foie gras, la corrida, la chasse à cour. Pardon, pardon, pardon. Nous pourrions plaider l'ignorance ou la désinformation, mais non. Nous savions que l'éléphant était tabassé pour que nous puissions touristes nous promener sur son dos. Et nous avons continué. Nous étions au courant que les animaux sauvages dans les cirques destinés à nous divertir étaient immensément malheureux. Mais nous avons continué. Nous connaissions la différence d'espérance de vie du dauphin dans l'océan et au parc Astérix. Et nous avons continué. Nous étions informés de la torture infligée aux coyotes dépecés pour décorer. Je dis bien décorer, oui, non pas tenir chaud, décorer les capuches de nos doudounes. Et nous avons continué. Nous étions parfaitement conscients du sort réservé aux orang-outans si nous n'arrêtions pas de consommer du Nutella et de l'huile de palme, et nous avons continué. Alors tu vois, jolie Daya, merveilleuse petite reine, je te souhaite de tout mon cœur qu'au paradis des animaux, il n'y ait pas d'humains, parce qu'ils sont vraiment trop bêtes.
Merci Constance.
Bah moi j'ai été touchée.
Bah oui.
Bah oui.
Constance, ça va annoncer une chronique où vous ne seriez pas touchée,
parce
Alex.
Parce que de temps en temps, j'aime bien le saucisson et les andouillettes. Mais voilà,
ça peut pas toucher comme un moment de devenir végétarien.
Merci Constance et bravo, vous avez réussi à aller jusqu'au bout de votre chronique qui vous tenait tellement à cœur et qui nous fait tellement de bien. Vous voyez, ça, c'est l'intelligence artificielle peut pas faire ça.
Non,
toute cette
jamais.
Émotion.
Non, mais c'est des fausses larmes, c'est pour remplir mon théâtre.
Justement, vous jouez aux deux ânes.
Oui, oui, jusqu'à fin avril, venez, venez.
Ils sont toujours vivants, les deux. Ils sont bien traités ou pas, ces deux ânes?
Oh, on a fait du saucisson.
Constance, tous les mardis soirs au théâtre des deux ânes, dont elle prend bien soin aussi. Merci, Constounette. Toujours en compagnie de Charles-Élie Couture. Bon, Charles-Élie, vous êtes touché par tous les talents, la comédie aussi. Est-ce qu'on peut vous proposer de jouer avec nous dans un sketch? Ouais.
Ben, on propose, pas garanti. On propose à l'invité tous les jours un sketch, un rôle qu'il découvre. On a appris ce matin dans une indiscrétion du Figaro que Jean-Marc Dumontet, spécialiste des humoristes sur Paris,
producteur
ouais, de Nicolas Canteloup entre autres, devait trouver le remplaçant de Sylvain Faure à l'Élysée qui était le responsable de la com. Il fait le casting. On s'est dit, il a sans doute été voir parmi ses amis humoristes s'il n'allait pas trouver quelqu'un de dispo. Vous êtes Jean-Marc Dumontet et nous, on va se relayer dans ce casting.
Alors c'est bon, vous m'embauchez là ?
Ça dépend. Quelle est votre principale qualité, monsieur Gallet-Manet ?
Ben, j'aime ma banque.
Ben, c'est bien ça, ça va plaire au président.
Et j'ai aussi plein d'idées.
Des idées, attendez, des idées à vous ?
Non, c'est pas vraiment, je les ai piquées à une vieille humoriste anglaise en fait.
Ah, vous trouvez que Margaret Thatcher était marrante ?
Non, mais en tout cas elle est morte.
Pas bête, des idées de Thatcher, ça va lui plaire aussi à Emmanuel Macron.
Bah là, je suis aussi en train de traduire un certain Reagan et un certain pote, mais bon, le Cambodgien, c'est chaud hein, quand même.
On sait, on vous rappellera. Candidat suivant.
On ne nous dit pas tout.
Veuillez développer, madame Romanoff.
Alors, comme le dit ma belle-sœur, il est plutôt bel homme, notre président.
Pas mal. Quoi d'autre pour me convaincre?
Ah, je suis assez pointue sur les retraités.
Ah bah c'est bien ça.
Bah disons que je connais personnellement Michel Drucker.
C'est un plus.
Voilà, je suis pointu pour travailler dans des équipes à la déroute.
Ça c'est parfait pour nous.
Voilà, je bosse sur Europe 1.
Comment va Patrick Cohen?
On ne nous dit pas tout.
Et c'est sans doute comme ça. Candidat suivant.
J'ai changé. Ma petite Carletta, quelle indignité.
J'aime bien. Vous essayez d'imiter Emmanuel Macron, monsieur Canteloup?
Pas du tout, j'ai imité Sarkozy.
Ah, autant pour moi, ils se ressemblent tellement.
Bah alors c'est ok, je suis engagé, je peux en imiter d'autres, hein. J'en ai plein, hein. Regardez, je peux faire, excusez ma tenue, je sors de la douche, trop scan, crac crac, où sont les gonzesses, Chirac.
Allez, je dois avoir d'autres postules.
Je peux aussi faire Popek, donc gynéco, Yvette Horner.
Et Marlène Schiappa?
Ah non, ça on caricature pas Marlène Schiappa.
C'est bien, vous êtes féministe.
Ah non, 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 caricature pas Marlène Schiappa parce qu'elle le fait très bien elle-même.
Écoutez, il me reste encore un humoriste à voir et puis je me décide.
Ah, un gilet jaune, les chevaliers du fiel, c'est ça.
Non, non, Alexandre Benin, là.
Alors là, comme humoriste, on peut pas rivaliser.
Jean-Marc Dumontet, donc, qui fait le casting pour trouver le nouveau. D'accord. Alors qu'il était pressenti pour être ministre de la Culture, il est descendu dans le.
C'était auto-pressenti.
Ah, ouais, d'accord.
Ah, non, okay, enfin, c'est-à-dire qu'il a dit que non.
Oui, beaucoup de gens s'auto-pressentent ministre de la Culture. Charlélie Couture, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous.
Merci de m'avoir invité.
Mais avec joie, je rappelle votre actualité foisonnante, puisque, il y a plusieurs. Qui dit artiste multiste, dit multiste aussi dans les activités. Votre album, c'est Même pas sommeil, qui est déjà disponible. Votre recueil de poèmes, La mécanique du ciel, paru aux éditions du Castor Astral, paraît jeudi. Et votre exposition de peinture, Passage, ce sera au musée Paul Valéry à 7, du 16 février au 28 avril. Et puis bien sûr, il y a la tournée, avec notamment une date au Trianon, c'est ça, au mois d'avril.
Le 12 avril.
Le 12 avril, et puis dans toute la France, on l'a dit, de Grande-Synthe à Moissac, en passant par Bagnoles. Merci beaucoup, Charlélie Couture. Merci beaucoup à Constance. Merci beaucoup, André Manoukian, Guillaume, Alex, on se retrouve demain avec le comédien Bruno Volkovitch et on vous laisse le mot de la fin, Charlélie Couture.
Quand Marcel ment, Marcel ne dit pas la vérité.